Dans le livre des Actes, il y a une parole qui est d'une extrême sévérité. D'ailleurs, je vous encourage à le lire en entier. Actes chapitre 17, verset 24. Voilà, je vais vous donner plusieurs textes. Je vous encourage à les noter, comme j'ai l'habitude de vous le dire, pour que vous puissiez les méditer chez vous, vous-même ou avec vos enfants, et d'y revenir pour votre édification personnelle, car ça m'étonnerait que nous puissions nous souvenir de tout le texte, de tous les textes qui sont cités dans une exhortation. Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'Aréopagite et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Le verset 31 dit une chose qui est d'une grande importance. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, bien sûr, par le Seigneur Jésus-Christ. Un texte d'une grande sévérité. Si vous venez avec moi maintenant dans le psaume 121, la semaine dernière, nous avions pris un texte sur le grand amour de Dieu pour introduire la réunion. Là, nous prenons un deuxième texte sur le fait que Dieu nous protège. Psaume 121, vous connaissez ce psaume? Vous le connaissez? Il est adressé à ceux qui sont spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils lèvent leurs yeux vers Dieu. Faites-vous partie de ces chrétiens qui ont les yeux tournés vers le Seigneur? Beaucoup de chrétiens aimeraient, mais ils ne le font pas. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Vous voyez, tout à l'heure aussi, ce texte nous disait que Dieu a fait les cieux et la terre. Mais là, c'est un autre contexte. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et tout le monde, bien sûr, dit amen. La parole de Dieu, elle est catégorique. Dieu protège ses enfants qui ont les yeux fixés sur lui. Est-ce que vos yeux sont sur le Seigneur? Je pense que les temps dans lesquels nous vivons font que nous ne pouvons pas faire autrement. Quelqu'un qui n'a pas les yeux fixés sur le Seigneur, en plus n'a pas l'assurance qu'il sera au bénéfice de ce psaume, c'est-à-dire qu'il sera gardé. Vous croyez que Dieu garde ses enfants? Vous croyez que si on est là ce matin, c'est que le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés. Mes frères et sœurs, on peut le dire, on peut le chanter, comme Lucas le disait si bien, on peut chanter par habitude. Vous voyez, quand on a chanté, comment c'était ce cantique? Je veux entendre ta voix. Est-ce que, franchement, soyons honnêtes, est-ce que vraiment il y a quelqu'un ici qui veut entendre Dieu lui parler? Ou est-ce que vous voulez vite, que ça soit vite fini, un sermon, il faut passer à autre chose, on verra dimanche prochain, frères et sœurs. Est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Ce que Dieu a à te dire, montre-moi, éclaire-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il y a plein de chrétiens qui sont sur une mauvaise voie, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont dans la peur, dans la phobie du lendemain. Ils ont peur. Leur Dieu, c'est BFM TV, j'en sais rien. Mais leur Dieu, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont soucieux d'entendre ce que les journalistes racontent. En plus, souvent, c'est des informations qui sont de la désinformation, croyez-moi. Mais ils ne veulent pas entendre le langage de la croix. Je vous assure, c'est vrai. Il y a des gens, ils ne manqueront pas les infos. Ils les regarderont deux fois, peut-être même trois fois par jour. Mais est-ce qu'ils auront le réflexe de dire, « Mais Seigneur, montre-moi, regarde, moi je ne sais même pas où j'en suis. » Il y a des gens, ils ne savent même pas où ils en sont. Ils sont là, ils chantent, tout ça, ils prient, mais en vérité, ils ne savent pas où ils en sont. Parce que tu as gardé ma parole. Vous connaissez la fin ? Je te garderai. Ce sont des paroles de Dieu. Elles sont sorties de la bouche de Dieu. On a besoin des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et pas de pincelement. Mes frères et sœurs, Dieu promet qu'il gardera les fidèles. Alléluia. Il les gardera. Si vous êtes fidèle, ça prouve que vous gardez la parole. Vous la serrez dans votre cœur. Vous veillez, comme on l'a vu il y a un mois ou deux, vous veillez attentivement sur votre âme. L'autre jour, quand j'étais en congé, j'étais dans une église. Le pasteur m'a demandé de prêcher et j'ai prêché sur la prédication. Enfin, j'ai repris le texte. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Et il y a un monsieur qui vient de prendre le baptême, Albi. Il venait de prendre le baptême et il dit à un ancien en plus. Il dit à un ancien, il y a un fil qui me gêne, il dit à un ancien, cette semaine, je n'ai pas lu la Bible. Et l'ancien, vous savez ce qu'il lui a répondu ? C'est pas grave. C'est pas grave si toi, tu ne vas pas la lire à contre-cœur. Et moi, dans la prédication, comme fait esprit, j'ai cité ça. Imaginez quelqu'un qui dise à quelqu'un, tu n'as pas lu la Bible, c'est pas grave. Le frère est venu me voir, il était le frère interpellé, il était confus, il a dit c'est grave, je devrais lire ma Bible, il n'y a pas longtemps que je suis baptisé, j'ai déjà commencé à être léger. Et l'autre, il m'a téléphoné, il m'a dit Monsieur Gaud, je vous appelle, vous savez, c'était pas intention. J'ai dit mais c'est votre problème. J'ai dit mais voyez comment on peut être sentimental. Les gens sont dans la sensiblerie, pas dans la sensibilité. Et nous avons affaire à des gens qui ne réalisent pas qu'il y a un jour qui est fixé. Et comme je l'ai dit, et je le dis avec beaucoup de sérieux, c'est là que je m'adresse aux pasteurs, combien de pasteurs sont en scandale, ont scandalisé l'Église, on va y revenir tout à l'heure, combien de pasteurs ne se rendent pas compte à quel point ils ne respectent... Regardez avec moi deux ou trois textes, c'est pas pour vous, ça c'est pour les pasteurs. On va les lire ensemble. Regardez dans le prophète Malachi. Malachi, c'est un des livres qu'il y a juste à la fin du Nouveau Testament. Regardez, il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs. Vous savez, tous les jours, j'ai des pasteurs au téléphone. Tous les jours, c'est pas compliqué. Tous les jours. Et je peux vous dire que certains ont besoin d'entendre ce qu'ils vont entendre maintenant. Je vous le dis une fois pour toutes, pour que vous sachiez que dans les prédications, comme je l'ai dit dans les annonces, il y a des messages qui sont adressés aux serviteurs de Dieu. Malachi, chapitre 2, verset 6. C'est un texte par rapport à la discipline sur les pasteurs ou les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Malachi chapitre 2, verset 6. On va lire trois textes qui sont adressés pour vous expliquer que le problème, en fin de compte, il n'est pas que lié à la légèreté des chrétiens. Il est extrêmement lié à la légèreté des pasteurs. Malachi chapitre 2, verset 6. « La loi de la vérité était dans sa bouche. » Et l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Voilà ce que Dieu dit aux serviteurs. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies, parce que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous voyez comment Dieu parle aux pasteurs. Regardez dans Jérémie 23, un peu avant. Vous savez, c'est les grands prophètes, enfin, un peu avant, oui. Jérémie, regardez cette parole, je vous l'ai citée l'autre jour, mais comme certains ont besoin de la noter, je la redis. Jérémie 23, pardon, Regardez cette parole, si elle est grave. Vous savez, mes frères et sœurs, moi je crois que Dieu est bon, rempli d'amour et de miséricorde, et qu'il garde ses enfants, et que j'aurais pu articuler toute ma prédication sur le psaume 121. Mais hélas, les chrétiens n'ont pas besoin d'entendre ça. Les chrétiens, ils ont besoin d'entendre des choses plus sérieuses. Jérémie 23, regardez bien, verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Regardez la suite. C'est d'une gravité, mais c'est grave, grave, grave. C'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Je ne sais pas dans quel état d'esprit était Jérémie quand il a reçu cette parole. Je ne sais pas comment était le cœur de Dieu quand il a dû donner cette parole. L'impiété qui se répand, non pas par les impies, l'impiété qui se répand par les pasteurs. C'est grave, hein? Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est archi grave. Si votre vie est spirituelle est légère, c'est dur. Regardez dans Jacques. Mes frères et sœurs, priez pour les pasteurs. Je vous en supplie. Nous ne nous rendons pas compte à quel point l'Église est en danger. Jacques, chapitre 3, verset 1er. Ça, c'est adressé à tous les pasteurs, tous ceux qui sont appelés à enseigner. Même si vous présentez que la Sainte-Seine, c'est une responsabilité. Jacques, chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi ? Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous le connaissiez ce verset ? Vous aviez déjà fait attention ? Je serai jugé sévèrement. C'est évident. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la parole de Dieu. Et comme Paul dit, c'est Jude qui dit, « Je me suis senti obligé de vous écrire. » Comme Paul dit, je me sens obligé de vous écrire les mêmes choses parce que cela est salutaire pour combattre le bon combat. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin, je l'ai dit 50 fois, mais tant pis, nous n'avons pas besoin d'un bon message. Est-ce que nous combattons le bon combat ? Est-ce que nous réalisons que Jésus va revenir ? Qui vous dit que Jésus n'est pas à la porte ? Il l'était il y a 2000 ans. Et les gens ricanent, et les gens se moquent, mais les gens oublient que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Nous, on est là, affolés avec le temps. Mes frères et sœurs, Dieu, il a fixé des choses, il a fixé un jour. On y reviendra dans la conclusion. Mes frères et sœurs, un des problèmes les plus graves qui circulent aujourd'hui dans les églises et qui est rentré dans les ADD, ce qui est pour moi grave, c'est qu'on enseigne aujourd'hui qu'on ne peut pas perdre le salut. Ça s'appelle la doctrine de la sécurité éternelle. C'est extrêmement grave. Et des pasteurs l'enseignent, des anciens l'enseignent, des gens qui ont de la connaissance et des diplômes enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut. Mes frères et sœurs, je vous assure que ceux qui croient ça ont vraiment perdu la foi. Ils ont abandonné Dieu. C'est des doctrines de démons. Regardez quand Paul parle aux Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens 15, 34. Il parle aux chrétiens. Ce sont des textes. Je pense que je vais faire un feuillet, si le Seigneur me le permet, si j'ai le temps de le faire. Tous les versets qui montrent qu'on peut perdre le salut. 1 Corinthiens 15, 34. C'est une église, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a tous les dons, tous les ministères. C'est l'église, elle est gâtée de chez gâtée. Elle a tous les dons. Vous lirez les Corinthiens, c'est extraordinaire. Les hommes de Dieu qu'il y a dans cette église. Il y a tous les ministères, tous les dons spirituels. C'est un truc de fou. Et regardez bien cette église. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens s'assemblaient pour devenir pires. Ça prouve qu'il y avait un vrai problème. Et pas de la part des serviteurs, de la part de leur cœur. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient perdu le salut. Quand il est dit, ne péchez pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, les personnes qui excusent le péché, je vous le résume en français simple, les personnes qui excusent le péché volontaire, le péché en carrément, n'ont aucune connaissance de Dieu. Si vous faites partie des gens qui badinaient avec le péché, qui prenaient le péché à la légère, vous ne connaissez pas Dieu. Écoutez-moi bien, c'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous vous êtes pas d'accord, arrangez-vous avec le Seigneur. Si vous riez avec le péché, vous ne connaissez pas Dieu. Un autre texte dans 2 Corinthiens 5. C'est sérieux, oui, je reviendrai, je l'ai dit tout à l'heure, je pourrais prendre toute ma prédication sur le psaume 121. Qu'est-ce que ça m'aurait été facile. Regardez, dans cette même église qui avait besoin de réentendre, parce qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être corrigées. Et regardez, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un va à l'église, pas si quelqu'un est baptisé, pas si quelqu'un est croyant. Je ne sais pas si c'est clair dans votre tête, si quelqu'un... Et en Christ, il vit avec Christ, il obéit à Christ. Vous comprenez la différence? Beaucoup de gens disent, oui, je suis chrétien, je crois en Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça qui est dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, etc., etc. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Paul écrit à des chrétiens, il n'écrit pas à des pécheurs, il écrit à des chrétiens qui se sont laissés à manger par les choses de la terre et il les supplie. Je ne sais pas, quand est-ce qu'on supplie quelqu'un? Quand c'est urgent, vous êtes d'accord? Et Paul dit, mais je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de communion avec Dieu. Mais moi, mes frères et sœurs, je vous assure, moi, ça me brise le cœur. Parce que même dans cette église où on s'applique à annoncer la véritable piété, il y a des chrétiens qui sont d'une légèreté. Oui, on peut perdre le salut. Oui, même le Paul dit, l'apôtre Paul, il dit qu'il veille afin de ne pas être réprouvé lui-même. Disqualifié, pour être un mot plus simple encore. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, nous devons nous poser les bonnes questions. Où j'en suis? Mais là, vous voyez, on n'est pas dans la culpabilité morbide, dans la fausse culpabilité qui vient du diable. Il y a la culpabilité qui vient de Dieu. J'ai commis un péché, je me sens coupable, je le règle. Ça, c'est la super culpabilité, la vraie culpabilité. Mais moi, en tant que votre pasteur, vous avez lu avec moi. Bon, moi, j'ai pas envie que Dieu me dise, mais tu sais, Gérard, tu fais partie de ces prophètes ou de ces oiseaux de malheur qui ont répandu l'iniquité dans les églises, qui ont scandalisé les églises. Moi, j'ai pas envie d'entendre ça, parce que je suis pasteur, d'accord, mais je suis aussi chrétien, et je sais que je rendrai compte à Dieu plus sévèrement que les chrétiens qui ne sont pas appelés au ministère. Je le sais, et ça ne me fait pas rire. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que vous soyez sauvés. Donc, que nous soyons sauvés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre les textes qui nous parlent comment un chrétien peut perdre le salut. Alors, on va en voir un ou deux, en fonction du temps, ou trois, en fonction du temps que l'on a. Premier texte. Dans Matthieu au chapitre 8, le Seigneur, c'est une histoire qu'on utilise dans l'évangélisation, mais croyez-moi, elle est pour les chrétiens aussi. La conclusion, elle est pour les chrétiens. Dans Matthieu au chapitre 8, vous savez, c'est l'histoire du centenier. Ce centenier, qui était un homme militaire, un centenier, c'était un capitaine, comme notre frère Emmanuel Dubois, qui dirigeait une centaine de personnes. Voilà, c'est un officier. Voilà. D'ailleurs, je sens qu'Emmanuel, des fois, il veut me diriger. Hein? Un officier, il était centenier, c'était un homme qui était habitué, avait appris à tuer, et pourtant il avait choisi. C'est incroyable. Ailleurs, il est dit qu'il avait même construit une synagogue, il s'était attaché au peuple de Dieu. Oui, c'est pas parce qu'on a eu un mauvais passé qu'on ne peut pas s'attacher à Dieu. Alors cet homme, il fait une expérience, verset 8. Alors c'est du verset 5 au verset 13 pour ceux qui prennent des notes. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous voyez, cette humilité, il avait une humilité que les religieux n'avaient pas. Il n'était pas encore sauvé, je ne sais pas si vous voyez un peu. Cet homme n'était pas encore sauvé, il avait une perception de la vérité plus grande que les religieux. Ça, c'est grave, hein? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, voilà, là ça concerne les chrétiens, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais, regardez bien, si on ne peut pas perdre le salut, les fils du royaume, que je sache, ce sont les croyants. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Premier texte où Jésus utilise une expression qui fait froid dans le dos, il l'a utilisée 7 fois, il devait l'utiliser. C'est une expression qui a tout son sens, n'oubliez pas, ce n'est pas un pasteur qui l'a préparé, c'est Jésus qui l'a enseigné. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors qu'est-ce que c'est le contexte? C'est ce que moi j'apprends aux pasteurs, aux anciens. Trouver le contexte, quel est le contexte de cette parole sévère? Le contexte, c'est la foi. Jésus parle de cet homme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, qui exprime la foi. C'est pour ça, même si vous êtes nouveau, vous pouvez faire une expérience avec Dieu. Même si vous n'êtes pas encore converti, vous pouvez faire agir la mesure de foi que Dieu vous a donnée, car Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Et si vous vous dites athée, c'est du cinéma. Ça vous, c'est le diable qui essaie de vous faire croire que Dieu n'existe pas. Parce que vous avez reçu la pensée de l'éternité, croyez-moi, vous avez reçu une mesure de foi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans le contexte, c'est la foi. Donc, où j'en suis de la foi? Quelqu'un pourrait dire, voyez vite fait, mais si je suis là, M. Gauss, c'est que j'ai la foi. Vous croyez? Vous croyez que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des chrétiens dans les églises? Il n'a pas dit ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi dans la parole, la confiance dans la parole de Dieu. Les chrétiens, je le dis avec beaucoup de tristesse, les pasteurs et les chrétiens qu'enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut mettent les gens dans une galère pas possible. Et ils ne se rendent pas compte. De toute façon, ces pasteurs-là sont en train de perdre le salut eux-mêmes. Et je le dis devant Dieu. Parce que je serai jugé plus sévèrement. Quand on en arrive à faire croire aux gens que ce n'est pas grave s'ils pêchent, ils ne perdront pas le salut parce qu'ils ont accepté Jésus une fois pour toutes, ce n'est pas vrai, on peut perdre la foi. Ce premier texte où Jésus, lui seul qui utilise cette expression, il y aura des pleurs et des grincements dedans, nous prouve que des chrétiens peuvent perdre la foi. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que les gens ils abandonneront la foi, que les gens perdront la foi, que les gens auront une foi superficielle, l'apparence de la piété? Ça c'est un troisième texte où Jésus en parle. Je ne sais pas si on aura le temps ce matin, c'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, une vraie foi, se préparer sérieusement. Notre sœur Zulima me parlait hier de ce moment qu'elle a vécu tout à l'heure avec nous. C'était important pour elle. Depuis des semaines, elle se prépare. Elle a demandé à Dieu. Et je vous dis que dans quelques semaines, elle va nous témoigner de sa guérison. Pourquoi? Parce que l'onction d'huile, c'est quelque chose qui doit être vécu par la foi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sérieux. Et moi, je suis responsable de la légèreté dans l'église, de faire l'onction d'huile comme ça, tout va. Ça, c'est pas sérieux. Je ne suis pas sérieux, je le sais. Et Dieu me demandera des comptes pour toutes les fois où j'ai fait l'onction d'huile à des gens comme ça parce qu'ils l'ont demandé au dernier moment. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous comprenez? Le royaume de Dieu, ce n'est pas de la blague. Le royaume de Dieu, c'est le seul organe sur la terre qui s'occupe du salut des âmes. Et je ne suis pas en train de vous faire des reproches, je suis en train de prendre conscience que si on avait apporté une véritable piété dans les églises, les gens auraient choisi. Parce qu'en fin de compte, on ne fait que ça, on choisit. Ou si vous venez pour la première fois, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte cet Uluberlu? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, dans mon église où je suis, on ne croit même pas à la résurrection. Eh bien, c'est peut-être inquiétant. Il y a une chrétienne qui s'est convertie, elle a été dans une église. Et vous savez ce qu'il a dit, le pasteur? Je vous le dis parce que ça m'a énervé. Le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité. Il est ressuscité, mais pas en vérité. Il est ressuscité dans le cœur des chrétiens. Et la Bible dit que si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, notre foi, elle est vaine. Et voilà. Et ce pasteur, il va se perdre, il va perdre son église, alors qu'il était appelé, comme on l'a lu dans le prophète Malachie, à veiller sur ses lèvres et à prêcher la parole de Dieu. On se prépare. Il y a un problème, ça peut arriver. L'apôtre Paul n'a-t-il pas eu des problèmes? Vous lisez le curriculum vitae de Paul et vous allez voir que ça n'a pas été facile. Vous avez vu tout ce qu'il a traversé. Lorsque même il a eu une écharde dans la chair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé l'onction d'huile? Qu'est-ce qu'il a fait? Aidez-moi. Il a prié trois fois. Il n'a pas prié, je pense, trois fois, Seigneur, débarrasse-moi de ce truc. Je pense qu'il s'est sérieusement examiné. Il avait reçu une écharde dans la chair. C'était terrible, il n'y voyait pas. Il faisait dicter ses lettres. Il a vu une écharde qu'il a endurée toute sa vie. Il parle d'une infirmité, vous pourrez le lire, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il a une infirmité, il le dit. Il le dit quand il va en Galatie, c'est à cause de cette infirmité, etc., etc. Et Jésus ne lui a pas dit, je te guérirai. Dans le mouvement de Pentecôte, on est obsédé par la guérison. Et moi, je crois en la guérison. Mais je peux vous dire, écoutez-moi bien, il y a des choses plus importantes que la guérison. Le salut d'une âme, c'est plus important que la guérison. C'est sûr que l'apôtre Paul, il y en a qui ont dû dire, mais ce type, il est tout le temps malade. Il est tout le temps malade, il est tout le temps, il passe la moitié de son temps en prison, mais qu'est-ce que c'est ce pasteur? Oui ou non? Il n'a pas passé la moitié de son temps en prison? Il y en a qui vont dire, mais cet homme, il n'a pas la foi. Vous voyez comment on est tordu. Est-ce que vous croyez que c'est bien que Paul ait été en prison? S'il n'avait pas été en prison, on n'aurait pas les lettres. Puisque les lettres, il les a presque toutes écrites en prison. Vous croyez que Dieu, il s'amuse? Mais quand quelqu'un me dit, oui, mais c'est un ange de Satan, Dieu a utilisé un ange de Satan, ça venait du diable. Parce que vous croyez que le diable n'était pas intéressé à ce que Paul devienne un orgueilleux? Vous ne croyez pas que Dieu, le diable aurait bien aimé que Paul devienne un orgueilleux? Non, mais quand. Et c'est des pasteurs qui disent ça. Non, c'est Dieu qui contrôle tout dans les cieux et sur la terre. Et la foi, c'est pas je suis malade ou je ne suis pas malade. Moi, je ne suis jamais malade, j'ai la foi. Mais tant mieux. Dieu, tant mieux. Mais mes frères et sœurs, soyons sérieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a perdu la foi. Vous pouvez être malade et avoir une foi vivante, être une source de bénédiction pour les gens qui vous entourent. Le problème, ce n'est pas d'être malade, de vivre vieux ou de mourir jeune. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est d'être prêt à rencontrer le Seigneur et que ça se passe bien. Parce que certains fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Et moi, je n'ai pas envie que Dieu me dise « t'as contribué à ces scandales ». Parce que dans l'église, tu n'as pas osé dire les trucs. On le voit, hier, je lisais, je méditais sur la crainte. Comment le peuple avait la crainte des pharisiens? Les pharisiens avaient la crainte du peuple. Ils ne s'en sortaient pas. Et vous avez vu? Vous avez vu le résultat? Mes frères et sœurs, s'il y a une crainte qu'on doit avoir, c'est la crainte de Dieu. Si vous commencez, vous avez peur des pasteurs, si les pasteurs ont peur des chrétiens, si je dis ça aux chrétiens, il y en a la moitié qui vont partir. Mais qui partent? Mes frères et sœurs, nous sommes devant Dieu. Et Dieu a des choses à nous dire. Et Dieu a dit à Paul au bout de la troisième fois, parce qu'il y a des combats, « Ma grâce te suffit ». C'était bien que Paul reste moitié aveugle? Est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'il aurait mieux valu qu'il s'enorgueillisse? Mais bien sûr. Et quand on lit les Hébreux, vous avez lu Hébreux chapitre 11? Vous avez médité Hébreux chapitre 11, vous le lirez, du verset 33 au verset 39. Ne le cherchez pas. Vous voyez ce que la foi peut accomplir. Par la foi, il y en a qui ont échappé au feu, au lion, à la puissance de l'épée, à la prison, etc. Oh Seigneur. Et quand vous lisez la suite, il y a tous ceux qui, par la foi, ont été en prison. Par la foi, ceux qui sont morts au fil de l'épée. Par la foi, ceux qui ont été emprisonnés, etc., etc., etc. Exactement l'inverse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a ce que la foi, elle peut accomplir. Alléluia. Et que la foi peut endurer. Et alléluia aussi. Et qui nous sommes, nous, pour juger? C'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Mes frères et sœurs, cette foi, je veux cette foi vivante. Je veux expérimenter la grâce de Dieu. Où j'en suis de ma foi? Qu'est-ce qu'elles valent, mes prières? La prière de la foi sauvera le malade. Est-ce que c'est important que tout à l'heure, tous on ait prié pour nos trois sœurs qui ont demandé l'onction d'huile? Mes frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des obstacles à la prière. Il y a plein de chrétiens qui sont dans les obstacles à la prière. Ils ne le savent même pas. Je vous ai dit l'autre jour, mais avec vos enfants, lisez le livre des Proverbes. Il y a plein de textes qui indiquent comment un homme est béni et comment il y a des choses qui font obstacle à la prière. Regardez le deuxième texte. J'avance parce que le retourne. On verra que c'est deux, tant pis. Le deuxième texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, c'est dans Matthieu chapitre 13. C'est dans Matthieu chapitre 13, verset 47. Vous savez, ces choses-là, elles n'ont pas été écrites pour autre chose que pour l'Église. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, mais ça, c'est pas pour nous. » Tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est pour l'Église, croyez-moi. Si ce n'était pas pour nous, ça ne serait pas dans la Bible. Matthieu 13, verset 47. Un autre texte. Non, ce n'est pas celui-là. Le deuxième, c'est Matthieu 13, 36. Pardon. Excusez-moi. Matthieu 13, 36. C'est une explication d'une parabole. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Vous avez vu la différence? La foule de croyants, qui ils n'ont pas compris, mais ça ne fait rien, ils s'en vont. Et puis les disciples qui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent. Vous voyez, c'est ça. Ou on s'éloigne, tout en écoutant des sermons que Jésus a prononcés, ou alors on s'approche de lui. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Ça ne peut pas être plus clair. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Une autre fois, une parole que Jésus utilise, les pleurs et les grincements de dents. Quel est le contexte? Le contexte, les scandales et l'iniquité. Voilà le contexte. Donc, où j'en suis de cette affaire-là? Ça aurait été bien de prendre toute une exhortation sur la foi. Où j'en suis maintenant des scandales? Est-ce que par mon comportement, je scandalise les chrétiens? Parce que Dieu nous demande d'être des témoins. D'accord? Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un? Non, Jésus n'a pas dit vous êtes des convertisseurs, Jésus a dit vous êtes mes témoins. Donc notre responsabilité, c'est de rendre un bon témoignage. Si je ne rends pas un bon témoignage, je suis en danger de scandaliser les gens. Oui ou non? Mais c'est quoi un scandale, en fait? C'est quoi un scandale? Peut-être que quelqu'un n'est pas à même de dire, mais c'est quoi, au fait, scandale? Parce que des fois, on est choqué. Il y a des choses qui nous choquent. Il y a des choses qui sont choquantes. Une sœur, ce matin, me disait qu'elle a été dans un séminaire, elle a été scandalisée. Je pense que le mot exact, ça aurait été choqué. Parce que quand on est scandalisé, je vais vous dire ce que c'est le scandale. Le scandale, je vais vous donner la définition. Comportement incitant à se détourner de Dieu. Je parlais tout à l'heure des gens qui perdent la foi. Ce sont des gens qui abandonnent la foi. D'accord? Ils sont responsables. Ils perdent eux-mêmes la foi. Ils n'en veulent plus. Ils préfèrent les ténèbres. Donc ils rétrogradent. C'est leur choix. Les scandales, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que dans une église, et ça va en crescendo en fonction de la responsabilité que le chrétien il a. Si c'est un chrétien tout simple, il scandalise, mais ça autour de lui. Si c'est un pasteur, il peut scandaliser toute une église, toute une région, plusieurs églises. Scandaliser, c'est moi qui, par mon comportement, éloigne les gens de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, un peu plus loin, c'est dans Matthieu 18, je crois. Regardez avec moi. Matthieu 18, verset 7. C'est par rapport à l'humilité, par rapport aux petits. Les petits, ce n'est pas les enfants de l'école du dimanche. Les petits, ce sont les nouveaux chrétiens. Voyez, verset 6, Matthieu 18, 6. Regardez, mes frères. Mais si quelqu'un, c'est Jésus qui parle, scandalisait un de ces petits qui croit en moi. Donc, c'est quelqu'un qui est devenu croyant. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas moi qui parle. Hein. C'est le maître de l'amour, le prince de l'amour qui parle, le Seigneur Jésus-Christ. Malheur aux hommes, au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et quand un pasteur scandalise son église, quand on laisse... Une autre définition que j'ai relevée ce matin. Alors, effet choquant produit dans l'opinion publique par une affaire jugée contraire à la morale. Vous voyez, quand un problème dans une église n'est pas réglé, quand on laisse les gens vivre dans le péché, ça scandalise les nouveaux chrétiens. C'est grave, mes frères et sœurs. Mais moi, cette semaine, j'en ai entendu deux. Deux scandales, deux serviteurs de Dieu, des trucs de fous. Et dans l'église, il n'y a pas un frère à même de reprendre le pasteur et de tout faire pour que le frère, eh bien, ou se repente, ou recommence à zéro, j'en sais rien. En tous les cas, il y a une discipline biblique. Alors c'est vrai que je fais la différence entre la personne qui est timide. Vous voyez la différence, il y a des gens qui sont timides, ils n'arrivent pas à rendre témoignage. C'est pas bien, il y a une victoire à prendre. Est-ce que c'est toujours facile de rendre témoignage? Non, mais c'est un autre problème ça. J'ai du mal à rendre témoignage, peut-être que la meilleure façon c'est de prendre un évangile et de mettre un prospectus et le donner. Moi ça m'est arrivé déjà à la fin d'un entretien, j'ai dit écoutez je suis chrétien, j'aurais aimé vous parler du Seigneur, je n'ai pas le temps, je vous donne un évangile. C'était peut-être mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est timide, il y a des façons de compenser. Ça, c'est une occasion de dire, tiens, je vais avoir toujours dans mon sac à main, dans mon bagage, dans ma veste, etc., des évangiles. Voilà, ça, c'est un autre problème, la timidité, qui peut être réglée dans un moment de prière, etc. Mais entre la timidité, qui est un problème et une victoire à prendre, et le mauvais témoignage dans une église qui attriste le Saint-Esprit, et le deuxième texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de vent, c'est cette affaire-là. Les gens qui scandalisent, les pasteurs qui scandalisent, on dit rien, c'est pas grave. Comme je l'ai entendu cette semaine, un pasteur qui a fait des avances à une jeune fille, vous savez où elle a été, jusqu'où elle a été la discipline dans l'église, ça a été d'une extrême sévérité. Le pasteur devait être fatigué, écoute, t'inquiète pas. Voyez la fermeté avec laquelle on s'occupe du royaume des cieux. Moi, je vous assure que je plains le pasteur, car il dit ça à cette jeune fille qui, par la grâce de Dieu, est restée fidèle. Mais combien de gens on aura perdu ? Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oui, c'est Jésus. Ce n'est pas sorti de la bouche de Paul qui était sévère, c'est sorti de la bouche de Jésus. Les pleurs et les grincements de dents ne sont pas sortis d'une autre bouche que de la bouche de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ces expressions d'une immense sévérité? Eh bien, c'est pour nous faire réfléchir. Il nous est demandé de réfléchir. Oui, il nous est demandé de réfléchir. Le Seigneur va venir, vous l'avez chanté avec cœur, Jésus va venir pour nous chercher un jour. Vous le croyez que Jésus va venir? Qui vous dit qu'il ne va pas revenir dans les jours qui viennent? Est-ce que Jésus pourrait revenir dans les jours qui viennent? Est-ce que l'apostasie est arrivée dans les églises? Oui, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et laissez-moi vous dire qu'elle se compte presque sur les doigts des mains aujourd'hui. Les églises où on honore la foi. Les gens dans les églises, ils dansent, ils chantent, ils sont dans le péché. Et tout ça, et le Seigneur, il est bon. Dieu est amour. Oui, moi, je peux vous prendre pendant des semaines entières, si ça vous convient, que des prédications sur l'amour, je peux le faire. Des prédications sur la protection, je peux le faire. Le psaume 121, si vous voulez, mardi, je vous fais une belle étude sur le psaume 121, et je pourrais peut-être le faire. Mes frères et sœurs, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et si vous êtes en danger, vous n'allez pas entendre qu'une prédication sur le fait que Dieu vous protège, même si c'est vrai. Vous avez besoin d'entendre une prédication qui va vous ramener à avoir une vraie foi, une prédication qui va vous ramener à ne pas être un objet de scandale pour les autres. Vous vous rendez compte? Le gars qui fait du cinéma, est-ce que ça arrive? Des gens qui font du cinéma, ils prient à l'église, ils sont d'une immense piété, avec un vocabulaire super pieux à l'église, et à la maison, ils maltraitent femmes et enfants, ils sont vulgaires, à la limite violents. Eh bien, quand il va passer devant Dieu, il aura scandalisé ses enfants. Oui ou non? C'est vite fait de scandaliser quelqu'un. Et quand j'entends, écoutez-moi, moi ça me fait peur. Les gens qui disent aujourd'hui, des gens des fois même qui paraissent être pieux. Moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à cirer. Et ça parle en langue. On va terminer avec un texte. Par rapport à ça, si les gens lisaient la Bible, je peux vous dire qu'ils demanderaient pardon pour avoir dit ça. Tiens, dans les Corinthiens, justement. Regardez un texte par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Mais c'est valable pour tous. Je termine avec ce texte parce que l'heure tourne. On continuera, Dieu voulant, sur les autres passages. 1 Corinthiens chapitre 8, c'est par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, mais ça peut être valable pour plein de situations. Donc, on va lire à partir du verset 8, qui nous prouve que ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Vous comprenez bien que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Il y a des gens qui vous disent, oui, il ne faut pas manger de ci parce que ça m'éloigne de Dieu. Écoutez, ce n'est pas un aliment qui vous rapproche de Dieu. Vous y êtes, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Notez bien ce passage et notez-le peut-être avec vos et partagez-le avec vos enfants. 1 Corinthiens 8, 8. ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'en avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'en avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Pierre d'achoppement et scandale, c'est la même chose. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible. N'oublions pas qu'il y a des chrétiens qui sont faibles. Un nouveau converti, par exemple. Sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Verset 11. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible. Vous péchez contre Christ. Vous voyez ça, quand on parle des obstacles à la prière, on n'en parle jamais. C'est un manque d'éclairage, bien entendu, de notre part, à nous les pasteurs. Mais voyez bien qu'en blessant la conscience de quelqu'un, on pêche contre Christ. Ne vous étonnez pas si vous faites partie de ces gens qui, avec beaucoup d'assurance, se disent « Moi, les autres, je m'en fiche, moi, je fais ce que je veux. » Ne vous étonnez pas si vos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'un chrétien qui aime l'Église, il veille à ne pas être une pierre d'achoppement pour les gens. Vous êtes d'accord avec moi ? Et quand je vois, mais même des serviteurs de Dieu, moi, je fais ce que je veux. Je peux vous raconter quelque chose de triste. Un pasteur qui est arrivé dans une pastorale, je vous le dis. Il est arrivé à la pastorale en chemisette, bras nus, et il s'est fait tatouer tout le bras. Et il a dit, voilà les frères, je me fais tatouer tout le bras, et la prochaine fois, je reviendrai avec l'autre bras tatoué. Voilà, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est la même chose. Voilà, je ne sais pas si vous riez ou pleurez, je ne sais rien, moi ça m'énerve, bien sûr. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'un chrétien, il a le souci. Moi, souvent, on m'a demandé, « Monsieur, vous voulez pas venir boire avec nous un pot sur une terrasse ?» Non. Ça m'arrive de le faire quand je pars en vacances, ça m'arrive de m'arrêter. Souvent, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que vous diriez si vous me voyiez un jour au bord d'une plage en train de boire une tisane avec ma femme Isabelle ? La mienne. Qu'est-ce que vous diriez si vous me voyiez tous les vendredis soirs, place du Capitole, en train de boire une bière ? Est-ce que j'ai le droit, sérieusement, est-ce que j'ai le droit de boire un panaché tous les vendredis soirs, après la réunion ? Est-ce que c'est un péché en soi ? Ben non. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être une pierre d'achoppement ? Voyez ? Alors je pourrais dire, mais moi les autres, mais je m'en fiche, j'en ai rien à faire. Ah ouais ? Mais un gars qui a un problème avec l'alcool, je serais un objet de scandale. Mais non, monsieur Gou, il ne faut pas être... C'est du légalisme, ça. Eh bien, écoutez, arrangez-vous avec le Seigneur. Moi, je dis que ce n'est pas du légalisme. Je crois qu'un chrétien, il a le souci des autres. Et si vous n'avez pas le souci des autres, inquiétez-vous. Voyez cette espèce de scandale. Je vous assure, moi, j'entends des choses graves. Moi, je vous dis une chose, je termine. Jésus va revenir nous chercher. Le Seigneur, il est à la porte. Il va enlever l'Église. Si vous êtes sérieux, vous serez sérieux avec ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. C'est la parole de Dieu. Et je ne suis pas dans la vérité. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Nous sommes dans le préjugement. Nous sommes dans les prémices de la colère. C'est l'Apocalypse. Il ne parle pas de jour. Il dit qu'il a fixé l'heure. Le jour, le mois et l'année où il va juger le monde. Vous voyez, Dieu est d'une précision astronomique. Mes frères et sœurs, l'heure, elle est déjà fixée. Le Seigneur va revenir. Alors, ben Seigneur, tu vas m'aider. Il faut que ma foi soit vivante. Eh bien, on va retrouver une vraie foi. Et je m'adresse aux jeunes, vous qui n'êtes pas encore baptisés. Mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous de rentrer. Ce matin, je me faisais mon petit film. Vous savez que je peux concurrencer... Comment il s'appelle Spielberg. Je peux le concurrencer. En toute humilité, bien entendu. Et ce matin, j'étais dans mon bureau, les yeux fermés, et je voyais les girafes, les rhinocéros, les lions qui rentraient dans l'arche. Juste avant le déluge, ces animaux sont rentrés dans l'arche. Oui ou non, c'est écrit ? Deux par deux, Dieu dans son immense puissance a fait rentrer les animaux deux par deux dans là. J'imagine les voisins, oui. Qui pendant 100 ans ont vu Noé s'affairer à construire. J'imagine les voisins qui devaient peut-être se dire, mais c'est bizarre ce truc. C'est quand même bizarre cette affaire. Vous ne croyez pas que ce qui se passe autour de nous, ça commence à être bizarre? Vous ne croyez pas que le Seigneur, il est en train de nous donner les derniers signes? Il y en a quelqu'un qui nous dit, mais il a, tu te rappelles, il y a 50 ans, il nous l'avait dit, que les animaux, ils allaient rentrer. Et il n'est peut-être pas si fou que ça. On ferait peut-être mieux d'essayer. Ils n'ont même pas essayé. Vous savez, à force de s'endurcir, je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, je n'ai pas envie, parce que je serais jugé plus sévèrement, que Dieu me reproche de ne pas vous avoir aidé à vous préparer à rencontrer le Seigneur. Alors on va terminer en lui rendant grâce et en lui demandant ici et chez nous, Seigneur, montre-moi sur quelle voie je... Il le fera. Si nous on est maladroit, Dieu lui sera pas maladroit. Vous le croyez que si vous dites au Seigneur, montre-moi sur quelle voie je suis, c'est David, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Eh bien, si vous le faites de tout votre cœur, il ne peut pas faire autrement. Que son nom soit béni. Oui, le Seigneur est celui qui te garde. À condition que ce qu'on a vu dans la suite soit suivi. Prions, frères et sœurs. Recueillons-nous quelques instants. Cette prière peut vous transformer à jamais. Les enfants, les ados et ceux qui n'êtes pas baptisés, s'il vous plaît, réfléchissez. Vous qui n'êtes pas baptisés, je vous le dis vraiment, mais ce n'est pas pour faire des baptêmes, vous comprenez bien. Il y en aura le 17, il y en a déjà 7 ou 8 qui ont demandé. Mais le problème, on n'est pas payé au baptême. Mais si vous n'êtes pas baptisé, c'est que vous n'avez pas choisi de Jésus-Christ comme sauveur. Alors je vous conseille de demander à Dieu qui vous éclaire. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la croix, car tout ce que nous recevons n'est possible que grâce au calvaire. Mais où serions-nous, Seigneur, si nous n'avions pas ta parole? Dans quel pétrin serions-nous, Seigneur, si nous n'avions pas cette sainte parole, ces enseignements qui nous permettent de retrouver une foi vivante, ces enseignements qui nous permettent de nous appliquer à rendre un bon témoignage? Nous ne voulons pas, Seigneur, être des hypocrites. Nous voulons être des vrais chrétiens, debout, lorsque tu vas venir nous chercher comme ces vierges sages avec de l'huile plein les lampes. Seigneur, c'est ça que nous voulons. Et nous te demandons ton aide et ton secours, car nous savons que oui, que tu es celui qui nous garde. Tu gardes ceux qui gardent ta parole. Tu les protèges le jour, la nuit, dans leur maison. Quelle grâce de savoir que le soleil, que la lune et toutes les catastrophes ne toucheront pas ceux qui ont les yeux fixés sur toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni pour chacune de tes promesses et que ton nom soit béni pour chacune des prophéties et des paroles sévères que tu nous as attribuées. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.